Bonsoir. On va voir ce soir à propos de Philémon, Vincent. Mais d'abord, on va voir l'importance. La semaine dernière, on parlait de pourquoi Dieu ne veut pas de femmes pasteurs. Non pas que les femmes ne sont moins que l'image de Dieu que les hommes, pas du tout. Même importance. Juste des rôles différents, mais c'est important pour les femmes de quand même être bien éduquées, bien formées dans la Bible, bien discernantes, et on pense aux Saillants par exemple, Ruben et Jeanne Saillants qui ont en fait une institut biblique. Elle était très motivée que les femmes puissent être aussi bien formées pour être des missionnaires, pour être des femmes de pasteurs, pour être dans le ministère, et ça c'est important parce qu'il y a beaucoup de besoins. J'encourage à lire, particulièrement les demoiselles, ça ne serait pas mauvais non plus pour les jeunes hommes, de lire des biographies de missionnaires, de femmes, comme il y en a eu, et de voir les femmes, combien de ministères ils peuvent avoir envers les femmes, envers les enfants, envers le soutien d'une église, d'une nouvelle église, etc. Et pour ça, ça prend à être bien formé. Maintenant, ça prend à être bien formé, même si on ne va pas dans le ministère. Si Dieu ne nous appelle pas au ministère, ça vaut quand même la peine d'être bien formé. Donc, ce n'est pas juste ceux qui vont dans le ministère. Je veux encourager d'avoir une formation biblique, parce que même si on ne va pas dans le ministère, puis qu'on est une épouse au foyer avec son mari, et ensemble d'être dans l'église impliqué, c'est important quand même d'être bien formé bibliquement. Parce que, on va voir dans Actes 29 à 30, Actes 20, 29 à 30, ça dit, on va commencer même au verset 28. Prenez donc garde à vous-même. Là, Paul, dans le contexte, acte 20, à partir du verset 17, il parle aux anciens de l'église d'Éphèse. En passant par là, en chemin, il fait venir les anciens de l'église et il leur parle. Puis il dit au verset 28, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Évêque, c'est quoi au sens évêque catholique, là, grand religieux? C'est surveillant, simplement. À l'intérieur d'une église locale, c'était les anciens qui étaient des surveillants, évêques, pour paître. Voilà le terme, de ce que nous on tire le terme pasteur. Et peut-être avec le temps, pour se distinguer un peu de l'église catholique, là, le terme pasteur a collé plus que évêque, parce qu'évêque avait été pris pour très élevé. Mais voilà, c'est les trois termes qui veulent parler de la même personne ou des mêmes personnes, mais trois rôles différents, évêque, ancien et pasteur, pour paître le troupeau de Dieu, pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Maintenant, il dit au verset 29, « Donc je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels, qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous les hommes, des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. » Donc, l'importance d'être bien formé bibliquement pour pouvoir discerner. Maintenant, ça, cette tâche a été donnée aux pasteurs, là, aux évêques, aux anciens. Mais Romains 16, c'est écrit à toute l'Église. Romains 16, Romains chapitre 15, verset 16, pardon, 15, 16. Non, pardon, 16-15. 16-17. Je vais l'avoir. 16-17. Je vous exhorte, Romains chapitre 16, verset 17, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ, Jésus-Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Pour vous, votre obéissance est connue de tous, etc. Donc, il faut prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales par la manière qu'ils enseignent et qu'ils créent des divisions. Ils créent des divisions par les mauvaises choses qu'ils enseignent quand ils se retirent là, du préjudice de l'enseignement qui a été donné. Je pense qu'il y a moyen aussi de prendre des formations. En français, il y a quelques bonnes instituts bibliques. En France, il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns aussi que ce n'est pas en ligne. C'est moyen de prendre des cours en ligne, que ce soit à temps plein ou à temps partiel. Fait que c'est quelque chose, j'encourage de penser à ça. Mais que vous soyez appelé au ministère ou pas, j'encourage les jeunes de vraiment chercher une formation biblique. En plus d'une autre formation, s'ils ne sont pas appelés au ministère. Mais désirez d'être appelés au ministère, désirez que Dieu vous appelle pour aller ou pour servir dans l'église locale, ou, etc. L'importance, parce que quand on pense à cela, ce monsieur-là, M. Philémon Vincent, c'était le fils d'un pasteur baptiste qui était gagné au Seigneur par un homme très droit dans sa doctrine, très baptiste dans ses principes selon la Bible. Et ce monsieur Philémon Vincent, il a grandi donc dans le milieu baptiste, il s'est converti, il a fait une profession de foi dans sa jeunesse. Il est allé se faire former dans une nouvelle école théologique, mais qui commençait à voir que la Bible, c'est un livre humain qui nous parle de l'expérience religieuse des personnes à ce moment-là. Nous, on doit prendre l'essence de la chose, mais comprendre que ça, c'est leur manière d'avoir écrit les choses. Donc, qui voyait la Bible comme étant quelque chose de... naturel, parce qu'il ne croyait pas vraiment qu'il y avait un Dieu surnaturel, qui pouvait faire des miracles, tout ça. Donc il est allé se faire former là, ce jeune homme. Et bien sûr, lui, il n'a pas gobé tout ce qu'il a entendu, mais quand même, ça l'a influencé. Là, je ne vais pas vous lire tous les détails, parce que je vous laisserai lire l'article et les notes en détail. Là, je vous juste un résumé pour le temps qu'on a ce soir. Il y a aussi donc non seulement la lecture de cela, mais le vidéo du cours là, que j'ai donné sur cela dans le cours d'histoire baptiste. Là, ce qui est intéressant, c'est que lui, avec son origine très évangélique, très baptiste, très biblique, d'aller à une école comme ça, c'est là que on voit que c'est un peu comme une synthèse. Il fait un peu le lien entre ce qu'ils appelaient à ce moment-là le modernisme. Le modernisme, c'est justement cette manière de voir la Bible, que c'est un livre humain qui relate l'expérience religieuse des chrétiens à ce moment-là. Nous, si on peut prendre l'esprit de la chose, les valeurs de la chose, mais comprendre que ce sont des mythes, ce sont des fables, ce sont des images, des paraboles, c'est ce que les hommes ont compris, mais il n'y a pas vraiment l'aspect de parole de Dieu. Donc, là, lui, il en fait une synthèse, parce que lui, il croyait que Jésus était le Fils de Dieu. Il croyait qu'il fallait vraiment croire en lui, il fallait se convertir à lui. Mais vous allez voir, est-ce qu'on peut vraiment faire une synthèse des deux? Est-ce que c'est possible? Vous allez voir, on va en faire un peu quelques lectures, parce que vous allez voir comment c'est pieux parfois là. Et si on ne fait pas attention, Là, on est trompé. Je vais aller un peu plus loin. Donc, je vais vous lire quelques citations. OK? Par exemple, bon, définition de la foi évangélique. La foi évangélique a pour objet la personne de Jésus-Christ. Elle consiste à recevoir avec une confiance parfaite ce que Jésus nous donne. Or, il nous donne le pardon de Dieu, qui nous a mérité par son sacrifice rédempteur, et avec le pardon, l'assurance du salut et la paix de l'âme. Surtout, il se donne aussi lui-même à nous, car il vient habiter par son esprit dans notre cœur, afin de nous communiquer son caractère, son amour de Dieu, son amour des hommes et son espérance céleste. On lit ça, on dit, ah, très bien, très bien, très bien. J'ai commandé ce livre et je l'ai scanné pour l'avoir aussi, pouvoir faire des recherches, tout ça, et l'avoir le PDF, et pouvoir le rendre disponible. C'est un livre qui n'est plus sous droit d'auteur, de ce que je comprends, donc je l'ai rendu disponible. Je l'ai lu au complet pour savoir qu'est-ce qu'il enseigne vraiment, ce monsieur. Parce qu'il est, il était un des deux pasteurs les plus influençants, les plus populaires, pas populaires, mais les plus importants dans l'Union Baptiste. À ce moment-là, il était le pasteur d'une des églises de Paris. Il est devenu un peu le dirigeant de l'Union Baptiste. Donc, c'est pas n'importe qui. Et personne, à ce moment-là, ne l'a vu comme non-chrétien. Tout le monde l'a accepté. Alors, quand on va lire certaines autres choses, là, lui, quand on le bouge beaucoup, beaucoup de papiers tombe. Fait que je vais arrêter de le manipuler. De toute façon, je l'ai sur l'écran aussi. Parfois, il écrit des choses très, 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 très belles. Mais à part ça, là, on voit son compréhension inclusive du christianisme. Il appelle les frères, les catholiques, des frères, là, nos frères catholiques, comme si les catholiques, avec leur croyance dans le purgatoire, dans la messe, dans Marie co-médiatrice, comme Jésus qui est juste mort pour le péché originel. Ensuite, c'est à nous de payer pour nos propres péchés par la pénitence. Et finalement, dans le purgatoire, nos frères catholiques. Ensuite, là, je ne vais pas tout lire parce que je vais juste en prendre quelques-uns. Par exemple, le récit de la chute. Le récit de la chute dans l'Ancien Testament nous a été laissé par les premiers adorateurs du Dieu juste et bon pour nous représenter comme un tableau l'entrée dans le monde du péché d'abord, puis de la souffrance et de la mort. Voyez-vous, c'est un peu comme un... Ça nous a été laissé par les premiers adorateurs de Dieu. Donc, tu sais, ce n'est pas Dieu qui nous l'a laissé. C'est les premiers adorateurs de Dieu qui nous ont décrit un tableau. Voyez-vous comment il... Ce n'est pas la parole de Dieu. Et d'ailleurs, nulle part, il va l'appeler la parole de Dieu. C'est juste un livre saint, de bons écrits. Vous allez voir. Il nous avertit que le premier pas dans la voie du péché, c'est le doute. Le second, c'est l'incrédulité. Le troisième, c'est la convoitise. Bon. Ensuite, l'une des apparitions les plus remarquables au sein du peuple hébreu fut celle des prophètes. C'est quelque chose qui s'est développé, un peu comme l'évolution. Alors les prophètes, c'est quelque chose qui a apparu sur scène à un moment donné. Voyez-vous comme il tourne la chose naturellement? Ce n'est pas Dieu qui a donné sa parole et appelé quelqu'un à être un prophète. C'est très naturaliste. Okay? Regardez ce qu'il dit ici. Il assure, je ne sais pas si vous arrivez à lire, c'est assez grand. Il assure la régénération de l'humanité, là remarquez le H majuscule. Pour lui, l'humanité, ça fait un tout. Vous allez voir, ça devient un autre évangile. Et de tous les individus qu'il compose, Jésus, cellule pure et sainte dans l'organisme de la race, Il est devenu un centre d'assainissement, de purification et de sanctification. De lui rayonne la régénération et le salut pour tous. En nous unissant à lui par la foi, nous avons le bénéfice immédiat de son sacrifice rédempteur et nous recevons de lui son esprit, le même esprit qui a fait de lui le saint et le juste. Nous avons donc par lui le pardon personnel, la régénération personnelle et l'assurance que de proche en proche, le pardon, la régénération et le salut s'étendront à la race entière. Ça a l'air beau, mais vous allez voir que c'est construit sur des idées qui sont fausses. Jean-Baptiste, à l'égard de Jean-Baptiste, aussi Jésus est absolument indépendant. Il le considère, il est vrai, comme un prophète envoyé de Dieu et plus qu'un prophète. Toutefois, Jean n'est pas arrivé à la pleine lumière évangélique. Il a bien vu que pour entrer dans le royaume de Dieu, il est indispensable de pratiquer la justice. Mais pour lui, comme pour les Juifs, le royaume est encore un royaume qui sait que ça, c'est faux. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est pas par nos propres œuvres qu'on peut y aller. Donc lui, sa manière de voir Jean-Baptiste, c'est erroné. Il n'a pas vu que le règne de Dieu s'est établi qu'en amenant progressivement tous les cœurs à la justice, c'est-à-dire la piété morale, etc. Donc Jean-Baptiste, ça c'est un peu moindre dans un sens, c'est peut-être pas le plus clair, mais lisons un peu plus loin. Le naturalisme appliqué à Jésus. Il est pourtant inférieur au Père en tant qu'homme possédé du Dieu immanent. Il est inférieur au Père. Vous avez appris ça, vous, dans la Bible? Jésus a été possédé du Dieu immanent. Non, Jésus n'a pas été possédé du Dieu immanent. Jésus est Dieu. Donc, le naturalisme, par rapport à l'histoire de la Terre, là, bien sûr, il n'est pas contre l'évolution. Hein, mais on va aller un peu beaucoup plus loin. C'est dommage que ça sonne. Peut-être juste ferme ces deux. Ah, très bien. Merveilleux. Dans l'Ancien Testament nous dit très peu de choses sur la vie future. Certains écrivains de ce recueil semblent même l'avoir ignoré complètement à propos de l'âme, etc. Mais Job. Très tôt, Job a écrit par rapport à, il allait voir Dieu dans sa chair. Job fait allusion à une vie future, mais c'est pour regretter de n'avoir aucune espérance à ce sujet-là. Non, Job croyait dans la résurrection et il allait revenir. Mais allons à des choses un peu plus spécifiques. Bibliologie. Okay. Les révélations de Dieu les plus claires et les plus riches que nous ayons se trouvent dans la Bible. Ça a l'air flatteur, hein? Ça élève, hein? Les plus claires, les plus riches, mais actuellement c'est en train d'abaisser la Bible. Aussi, ce livre est-il depuis longtemps l'instrument de choix dont Dieu se sert pour amener les hommes à sa connaissance? C'est Dieu se sert de la Bible, c'est Dieu ne l'a pas donné. Voyez-vous, la subtilité, ça a l'air flatteur. Ça a l'air de... Et les révélations de Dieu les plus claires et les plus riches que nous ayons se trouvent dans la Bible. Mais ce n'est pas la révélation de Dieu qui nous a donnée, qui est claire et riche, point final. C'est les plus claires et les plus riches. L'idée que la Bible nous donne de Dieu se développe progressivement depuis Abraham jusqu'à Jésus-Christ et devient peu à peu la plus complète, la plus haute, la plus pure, la plus sainte, qu'il soit possible à l'homme de concevoir. Voyez-vous comment ça semble très flatteur, la Bible, mais en même temps, ça détruit parce que ce n'est pas la Bible comme la parole de Dieu. Alors, c'est le genre d'exemple de paroles pernicieuses que Paul a dit, « Attention, du milieu de vous va s'élever des personnes qui vont enseigner des choses pernicieuses. » Philémon Vincent a grandi dans un fils de pasteur, et puis... Et quand il a eu l'ancien de ses jours, il a été accepté à travers les églises baptistes. Les auteurs de la Bible ont été inspirés de Dieu, mais on va remarquer que son sens d'inspiré n'est pas la même chose que ce qu'on pense. Étant donné que l'usage que Dieu voulait faire de la Bible, notre foi en sa providence nous oblige à penser qu'il a veillé sur les hommes choisis par lui pour écrire ce qui est ce livre, qu'il s'est révélé à eux d'une manière spéciale, qu'il leur a fait faire toutes les expériences qu'ils devaient décrire, qui les a aidés dans l'expression des vérités dont ils étaient les porteurs, en un mot, qui les a inspirés. La Bible telle qu'elle se trouve actuellement dans nos mains est exactement ce que Dieu a voulu qu'elle soit pour accomplir ses desseins de salut en notre faveur et en faveur de notre race. Si elle était différente, elle serait moins capable d'amener les hommes à la maturité spirituelle où Dieu voulait les faire parvenir. Alors c'est proche, très proche, mais ça refuse de dire c'est la parole de Dieu qui est sortie. Et Dieu le dit dans 2 Timothée que la Bible est inspirée de Dieu, et le mot « inspiré » en français, ça ne fait pas justice au mot grec. Le mot grec, c'est « sorti de la bouche de Dieu » littéralement, « sorti de la bouche »,« expiré ». Mais « expiré » en français, ça veut dire autre chose. Mais « inspiré », pour nous, ça veut dire « on reçoit une idée ». Mais la Bible, la définition d'inspiré, vraiment, théologiquement, c'est « ce qui est sorti de la bouche de Dieu ». Et donc, dans 1 Timothée aussi, 1 Pierre 1, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Là ensuite, clairement, certaines choses de la Bible. Esther, épisode allégorique de la vie des Juifs. Donc, ils ne croient pas que le livre d'Esther, que ce soit vraiment l'histoire. Ésaïe, à son livre, se sont agglutinés plusieurs écrits prophétiques anonymes. Donc, ce n'est pas juste Ésaïe qui l'a écrit. Ça, c'est pas parce que Ésaïe, parfois, était très spécifique sur des prophéties. Alors, ceux qui ne veulent pas vraiment croire que là, une prophétie surnaturelle, ils font simplement dire « Ah, ben, c'est parce qu'il y a eu d'autres auteurs qui l'ont écrit plus tard, c'est pour ça que... » Et lui, il va de pair avec ça. Daniel, premier essai allégorique d'une philosophie de l'histoire, donc il ne prend pas les choses de Daniel comme étant vraiment véridiques. Jonas, une allégorie, donc l'histoire de Jonas, c'est pas vrai. Jésus a dit, Jésus a commenté sur l'histoire de Jonas que c'était vrai. Encore là, le livre apocryphe, là, il parle de... regardez ce qu'il dit. « Nos frères catholiques ajoutent le plus souvent à l'Ancien Testament un certain nombre de livres qu'on en appelle apocryphes parce que les Juifs ne les reconnaissent pas pour inspirer de Dieu et canoniques. Quelques-uns d'entre eux, comme la Sœur, etc., contiennent d'excellents préceptes. Mais les autres livres apocryphes ne sont que des romans ou fables. Apocryphe. Maintenant... La Bible, il dit à la lecture de la Bible, on peut ajouter celle d'autres livres inspirés par l'Esprit de Jésus-Christ. Ah ouais, donc la Bible n'est même pas complète en termes de les livres inspirés. Voyez-vous comment il change? Là, il y a d'autres livres qui peuvent être inspirés au sens qu'on l'on attribue à la Bible. Donc ça abaisse la Bible à simplement un livre humain. Là, il dit les tentations n'étaient pas littérales, l'ennemi en profitait pour lui glisser cette pensée. Mais Satan n'en a même pas vraiment parlé, il a simplement en fait pensé. Quand il est allé sur le temple, Satan, par l'imagination, il transporte Jésus. Donc, il contredit la Bible. Encore par l'imagination, Jésus soit transporté sur une hauteur. Il contredit la Bible. Donc là, il voit l'humanité comme un tout, et c'est pour ça qu'il met un H majuscule. Et l'idée de cela, c'est parce que Jésus est venu sauver l'humanité. Donc pour lui, ça fait un tout. Et tout comme Jésus représente l'humanité, quand on a il va pas avoir, ça va mener à l'universalisme. L'universalisme, c'est que Dieu, en fin de compte, va finir par sauver toute l'humanité. Universel. Mais est-ce que Matthieu 7 est très clair? Large est le chemin qui mène à la perdition. Étroit le chemin de la vie. Oui, on fait un tout en tant qu'humain à l'image de Dieu, mais beaucoup d'humains vont être dans le chemin de la perdition et vont être jugés à la fin parce que ça mène à la perdition. Tandis que peu. Donc la Bible est très claire sur que c'est pas l'humanité grand H, que c'est un tout. Ensuite, l'œuvre sociale. Bien sûr, la manière qu'il voit l'Évangile, c'est que là, l'humanité, on doit l'améliorer, pas juste avec l'Évangile, mais on doit améliorer son sort, parce qu'après tout, Dieu va finir par sauver l'humanité, tout le monde de nos frères et sœurs, ou vont l'être à un moment donné, on doit commencer à amener le royaume ici-bas sur terre par nos actions. Et donc, il a une vue, un Évangile social, qu'il faut améliorer le niveau de vie des gens. Ça ne veut pas dire que tout est faux là-dedans. Dieu nous dit, Paul il dit, attention de ne pas oublier les pauvres aussi. Donc certainement, on doit avoir un cœur tendre et aider les pauvres que l'on voit et vraiment avoir un cœur tendre, de pouvoir aider les besoins légitimes. Maintenant, il y a des besoins légitimes, il y en a qui profitent et qui veulent simplement se faire donner de l'argent pour continuer dans leur vice. Là, on parle d'aider vraiment des besoins légitimes. Donc, certainement que la Bible veut qu'on, tout en prêchant l'Évangile, que oui, on va aider d'une façon tangiblement, mais ce n'est pas notre but principal. Tous solidaires dans la rédemption. Nous verrons plus tard que cette solidarité de la race humaine, dont les premières conséquences ont été si désastreuses pour nous, est destinée à avoir, au contraire, les conséquences les plus heureuses et les plus salutaires, car elle rend possible notre rédemption par Jésus-Christ, qui s'est solidarisé avec nous pour arracher notre race entière au péché, à la souffrance et à la mort. Est-ce que c'est vrai que Jésus est mort pour le monde entier? Mais il faut l'accepter personnellement. Et c'est là qu'il mélange un peu les deux. Oui, il dit besoin d'un pardon personnel à cause de nos péchés personnels, de nos récoltes personnelles contre Dieu. Nous avons besoin d'une réconciliation personnelle avec lui, d'un pardon personnel. Il faut que Dieu, qui nous a envoyé, nous avons offensé, provoqué, nous pardonne nos péchés. Alors il dit oui, mais on va voir tout à l'heure, il va dire d'autres choses, c'est qu'en fin de compte, les gens qui meurent sans s'être convertis, ils vont avoir une autre chance. Et seulement ceux qui refusent de se repentir, en fin de compte, ils vont juste être brûlés et ne plus exister. C'est pour ça qu'en fin de compte, ils vont avoir sauvé toute la race. Parce que ceux qui refusent de se repentir, même après leur mort, il va simplement les brûler, les cesser, l'annihilationnisme. C'est la croyance que l'enfer, ce n'est pas un enfer, une souffrance éternelle, c'est simplement un feu qui nous détruit. Et lui, il est très spécifique là-dessus, il croit que l'âme est détruite, qu'il n'y a pas de souffrance éternelle. C'est simplement la destruction, le feu va détruire l'âme. Il n'y aura plus d'humanité autre que celle qui est sauvée. C'est comme ça qu'en fin de compte, il voit que toute l'humanité est sauvée. Parce qu'il n'y a plus personne à la fin. Ceux qui auront refusé de se repentir, la perdition, c'est de se faire brûler dans un feu qui brûle l'âme et qui fait disparaître la personne. Puis il n'y a pas de souffrance éternelle. Ça, c'est ce qu'il enseigne clairement. La Trinité, là, nous verrons bientôt que le Dieu immanent pour répondre aux multiples besoins de l'homme s'est communiqué dans toute sa plénitude en un organisme humain, celui de Jésus-Christ. Alors, c'est comme si le Père devient Jésus-Christ. Il a doué du caractère de Dieu et l'a fait vivre sur la terre et de la vie sainte. Mais ensuite, là, il va devenir le Saint-Esprit. Là, il incarne le Dieu immanent. L'évangile de Saint Jean nous donne, donc là, c'est encore le Fils. Ok, mais là ensuite, différence entre, on va y arriver avec le Saint-Esprit, différence entre Jésus et le Fils selon lui, son enseignement. La vie éternelle, dit-il, consiste à connaître le seul vrai Dieu et son envoyé Jésus-Christ. Or lui seul, Jésus, connaît et révèle le Père et le Fils. Il te dit, mais attends, Jésus et le Fils, comment est-ce? C'est parce qu'il croit dans un modalisme. Il y a un seul Dieu, le Père. Le Père, c'est le Dieu dans son sens qu'il n'est pas communicable. Mais quand il se communique à nous, c'est par Jésus qui est devenu un homme. Mais c'est plutôt Jésus sur qui il descend. Et le Saint-Esprit ensuite, regardez ce qu'il dit. Alors c'est ça, le Dieu transcendant, ça veut dire à l'écart de tout, c'est le Père. Ensuite le Dieu immanent, c'est celui qui est communicable à nous, là, qu'on peut connaître. C'est quand nous parlons du même Dieu comme présent dans ses créatures, leur communiquant l'ordre, l'harmonie, la beauté, la vie, etc. Ça, c'est... La Bible l'appelle alors l'Esprit de Dieu ou le Saint-Esprit. Alors, c'est complètement une fausse doctrine sur la Trinité. C'est un Dieu modaliste qui est le Père, devient le Fils, et ensuite, il devient le Saint-Esprit. Et c'est pas du tout correct. Okay. En Jésus vivait le Dieu immanent, éternel. Il s'est donné comme nous, comme Esprit Saint. Il s'est donné à nous comme Père, par sa providence attentive. Il s'est donné à nous comme Fils, pour se révéler à nous. Donc là, c'est complètement une fausse enseignement sur la personne de Jésus. Non, on va sauter, parce qu'il y a beaucoup plus de détails, mais je vous en avais entendu assez. Jésus s'est solidarisé avec la race entière. La race entière est au bénéfice de son œuvre du salut. Comment on l'a expliqué? Tout le monde que ce soit avant ou après la mort, vont se convertir, sinon quelques exceptions qui ne se repentent pas et vont être brûlés. On va le lire. Dans les milieux où la Bible est spécialement la vie et le sacrifice de Jésus sont connus, l'Esprit de vérité peut perfectionner en l'homme son travailleur éducateur et l'amener jusqu'à la conversion et au salut. Alors, ça, c'est pas du tout le genre de conversion que la Bible parle.
On dirait qu'il est forcé à
qui? Fait que...
Je pense
qu'il est forcé. Là, il parle parfois de la conversion telle que lui s'il imagine. Ça arrive en douceur, parfois, sans qu'on le réalise. La conversion n'est pas toujours un drame. Une personne qui a toujours vécu dans un milieu chrétien, qui a toujours entendu parler du péché, de la mort et de l'entrée de Jésus, du pardon, qui n'a jamais douté de l'enseignement biblique sur de tels sujets, peut arriver par un progrès inconscient à la pleine et joyeuse assurance du salut. Donc, vous voyez, de tous les angles, c'est à côté de la traque. Il n'y a pas de dépravation totale. Les moyennes grâces, c'est par l'obéissance, lecture à la Bible, tout ça. Je vais vous laisser lire les détails. Là, il implique la perte du salut, etc. Mais je vais aller jusque par rapport à le sang des pécheurs qui meurent dans l'impénitence. Une nouvelle occasion de salut. Bien des chrétiens, en effet, se basent sur l'enseignement du Nouveau Testament pour espérer qu'il reste encore aux pécheurs qui meurent dans l'impénitence une occasion de salut. Que le méchant soit jugé, condamné, châtié, la conscience et la Bible l'exigent. Mais elle exige aussi que le châtiment ne soit pas un acte de froide vengeance. Elle ne lui reconnaît une valeur morale et bienfaisante que s'il a un moyen pédagogique d'amener l'amélioration du coupable. Là, Hébreux 12, 4 à 10, c'est ce qu'il cite en référence. L'amour infini, le Dieu Père des hommes, se sert du châtiment comme d'un moyen d'éducation. Il ne punit le méchant que pour son bien, pour lui rendre sensible à sa déchéance, pour l'instruire des dangers les plus grands auxquels il s'expose, pour produire en lui la repentance et pour l'amener confus et soumis aux pieds de Jésus-Christ, son Sauveur et le Seigneur des morts et des vivants. Mais ce qui est faux là-dedans, c'est qu'il applique le principe de châtiment à ceux que Dieu reconnaît pour ses fils, en contraste avec ceux qu'il ne reconnaît pas comme ses fils. Et la Bible est claire que le châtiment que Dieu applique dans le contexte de sa famille n'est pas la même chose que le jugement et la condamnation éternelle de ceux qui ne se deviennent jamais enfants de Dieu. Donc c'est là qu'il applique le principe de châtiment et l'applique à l'aspect du jugement que Dieu avertit les perdus. Et donc c'est terrible. Là, il dit, d'après l'apôtre Saint-Pierre, les contemporains de Noé, qui avaient repoussé sa prédication et qui périrent pendant le déluge, purent entendre plus tard la prédication de Jésus et se convertir. Ça, c'est mal interprété à un Pierre. Saint-Pierre nous dit ailleurs expressément que l'évangile a été annoncé aux morts. Mais là encore, c'est pas aux morts physiques et spirituels pour qu'ils puissent se reconvertir. C'est pas du tout le contexte. Puisque les victimes du déluge ainsi que d'autres hommes ont eu le privilège d'entendre après leur mort les appels de l'Évangile et de pouvoir y répondre, comment croire que la même faveur n'est pas offerte à tous ceux qui ont le malheur de mourir dans l'impénitence? Ça fait une risée de tous les avertissements de Dieu sur le fait de devoir se repentir. Hébreux 9, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais lui, le jugement, c'est une forme de châtiment qui va les faire réfléchir. Ça fait une risée. C'est comme pourquoi chercher Dieu pendant qu'il est temps si on peut toujours le rechercher plus tard après notre mort. Donc c'est vraiment grave de faire une risée de toutes les avertissements de Dieu. Ça enlève toute la nature de la foi. La foi, justement, on lui fait confiance de notre vivant pour ce qui se passe après. Et là, ça fait une farce de la foi, parce que, si c'était moi, vivons notre vie au maximum, attendons de mourir, et ensuite on va se repentir. Et quand on voit que c'est vrai, ouais. Mais c'est vraiment triste, parce que ça contredit carrément tellement de passages dans la Bible. Ensuite, maintenant, la Bible est claire que la fumée de leurs tourments monte au siècle des siècles. Regardez ce qu'il dit là-dessus. Ce feu aura justement pour effet de faire périr l'âme et de la détruire. Le ver qui ne meurt pas, c'est le remords qui ronge l'âme sans repos ni trêve jusqu'à ce qu'elle demande et obtienne son pardon ou qu'elle soit entièrement détruite. Alors, c'est vraiment prendre des passages complètement hors contexte et de leur faire dire le contraire de ce qu'ils disent. Jésus avertit de l'enfer, là où ce qui est de verre ne finit pas de ronger, etc., ne meurt point, pour dire que les souffrances vont être éternelles. Mais lui, il fait dire que oh, ça veut dire qu'il y a une autre chance de se convertir, puis ensuite le feu, ça fait brûler quelqu'un s'il ne s'est pas repenti. Il invente ce qu'il veut en faire dire. C'est triste. Là, donc, c'est là que le feu fera périr l'âme. Certaines âmes périront. Il faut pourtant prévoir le cas où le pécheur, mort dans l'impénitence, abuserait jusqu'au bout de sa liberté pour persévérer dans son impénitence. On se demande pourquoi, qu'est-ce qu'ils vont en gagner. Mais c'est non seulement faux, mais c'est un illogisme total. Son âme, alors, de plus en plus séparée de la source de toute vie, se matérialiserait définitivement et périrait sans recours. Tel sera le sort de tout homme qui pèche contre le Saint-Esprit. Et là, donc, il parle de l'entière destruction d'un tel homme est assurée. Donc, il est simplement détruit, il n'existe plus. Voilà comme il explique. Donc, ce qui est vraiment triste, c'est que les autres pasteurs, à ce moment-là, ils avaient quelques soucis. Ils ont des soucis par rapport à le fait qu'il n'appelle pas la Bible la parole de Dieu. Et il a des soucis aussi par rapport à ses souffrances. Il ne croit pas dans les souffrances éternelles. C'est les deux points majeurs qui sont soulevés. Mais aucun des pasteurs ne l'appelle un faux prophète, un faux pasteur, un faux frère, quelqu'un qu'il faut exposer ses enseignements. C'est pour ça que j'ai commandé ce livre. Parce qu'avant ça, tout ce qu'on lit dans des livres d'histoire qui relatent ces choses-là, on dirait qu'il est chrétien. Parce qu'il cite les bonnes parties, il mentionne le fait que les pasteurs, à ce moment-là, ils avaient un problème avec sa bibliologie, le fait qu'ils croyaient que c'était faible. Ils croyaient que c'était un livre naturel, même si c'était Dieu qui l'a dirigé. Alors, ils n'étaient pas... Et aussi, ils n'étaient vraiment pas confortables avec... ce qu'il enseignait sur, justement, il n'y a pas de souffrance éternelle, comme la Bible parle très clairement. Mais personne n'a voulu, à ce moment-là, l'exposer pour dire, « Hey, ce qu'il enseigne est un faux. » Alors, j'ai commandé son livre. J'ai commandé sa théologie, manuel de religion chrétienne. Je l'ai lu au complet, et là, je le vois pour moi-même. Non, il ne croit pas l'Évangile. Il l'a tort. Il n'était pas sauvé de ce qu'on voit qu'il enseignait. Donc, moi qui s'est converti après, mais il n'y a aucune évidence de ce qu'il a changé d'opinion, de ce qu'il a écrit. Non, je ne connais pas son cœur, mais de toute évidence, l'évidence est là que de ce qu'il a écrit, de ce qu'il enseignait, il ne croyait pas le vrai évangile. Donc, c'est pour ça que c'est 1%. À ce moment-là, les églises qui se sont séparées de lui, ne se sont pas séparées de lui par rapport à son évangile. Ils ont continué à le considérer un frère, simplement parce qu'ils n'étaient pas confortables avec la direction. Mais ça fait des églises qui étaient faibles. Et ces églises qui étaient faibles, en fin de compte, 30 ans plus tard, ils se rejoignent de nouveau avec les églises qui ont continué avec lui, parce qu'ils sont devenus inclusifs. Et la plupart des églises en France, à part les églises baptistes indépendantes, la plupart des églises baptistes qui sont soit fédérées dans la Fédération baptiste ou dans l'Association baptiste, ils ont eu parfois des bonnes confessions de foi, mais quand quelqu'un croit autre chose et qu'il se dit chrétien, ben, qui sommes-nous pour dire qu'il n'est pas vraiment chrétien? Aucun de ceux-là va retourner voir Philémon Vincent et dire non, il a enseigné l'erreur. Alors c'est une foi inclusive. Alors c'est pour ça que, revenons au départ, l'importance de discerner est tellement importante. Et il nous faut plus que simplement des hommes. Ça prend l'entièreté de l'Église pour discerner. Et c'est le commandement de Romains 15, 16, 17, c'est donné à toute l'Église. Donc les demoiselles, moi j'encourage, poursuivez une formation biblique, même si Dieu ne vous appelle pas nécessairement, mais prenez le temps, que ce soit à côté d'une autre formation, peut-être à temps partiel, mais peu à peu, de vraiment avoir cette bonne formation biblique dans les instituts bibliques. Moi, j'ai déjà quelques cours par vidéo qui sont disponibles, et les institutions bibliques là-bas sont disponibles en ligne, de pouvoir le faire d'ici de la Guyane, mais où quelqu'un peut déménager là-bas et y aller. Mais moi, j'encourage, considérez la formation biblique parce qu'on a besoin de personnes dans l'église, dans les églises, pour être vigilants avec la parole de Dieu. Mais, je vais conclure avec ceci, dans Apocalypse 2, l'église d'Éphèse était très très fort sur discerner lesquels étaient vrais chrétiens ou pas, mais ils ont abandonné leur premier amour. Donc on doit faire attention. Il dit dans Apocalypse 2:2, « Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance, je sais que tu ne peux supporter les méchants, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. » Ça, ça manquait à ce moment-là, les églises baptistes à ce moment-là, ils n'ont pas fait attention de vérifier ceux qui étaient vraiment apôtres ou pas, vraiment des prédicateurs de l'évangile ou pas, parce que Philémon Vincent était accepté comme un pasteur très influent et dans le mouvement des églises baptistes, comme un dirigeant même de l'Union. Et vous allez dire, waouh! Et même les églises qui se sont séparées de lui ne l'ont même pas fait sur la base d'un évangile faussé, c'est simplement des faiblesses doctrinales. Donc, il y avait un grand manque à ce moment-là. Mais nous, on doit faire attention de ne pas simplement être vigilant de ce côté-là, parce qu'il dit ensuite, verset 4, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc, tu es tombé. » Donc, on doit faire attention à ce que ne deviennent pas simplement des personnes qui sont peut-être bien formés et qui vont poursuivre une bonne formation et on va vérifier une bonne rectitude, une droiture de doctrine, mais en faire quasiment une religion, ou quasiment faire un peu, du moment qu'on garde la forme, tout est beau, pas faire attention à nos cœurs, que le fondement de nos cœurs soit sur une bonne relation avec Dieu, avec un premier amour, avec un cœur qu'il connaît réellement, et c'est pas simplement la forme. Donc on a nos défis devant nous, dans notre génération, parce qu'il n'y a rien de neuf sous le soleil. On va prier. Seigneur Dieu, merci pour ta parole, merci pour l'exposition qu'on peut faire aussi de Philémon Vincent et de voir que toute l'influence qu'il a eue dans le mouvement baptiste, Seigneur Dieu, il en a amené beaucoup après lui, simplement, même ceux qui ne croyaient pas vraiment ce qu'ils croyaient, mais simplement à l'accepter comme si c'était acceptable. Ça, c'était terrible. Seigneur, donne-nous d'être vigilants, bien connaître notre Bible et de pouvoir discerner ceux qui ne sont pas vraiment des vrais prédicateurs et aussi de ne pas non plus abandonner notre premier amour et de faire attention à ce qu'on a un cœur tendre, un cœur de compassion envers toi, Seigneur, et envers les autres. Pas compatissant envers toi, mais un cœur tendre envers toi et compatissant envers les autres. On te prie donc, touche nos cœurs selon le besoin de chacun. On te prie au nom de Jésus. Amen.